Mémoire de Vidocq, chapitre 18, deuxième partie. Poulet et les siens étaient déjà à peine aperçus de notre absence, que déjà nous étions de retour. L'on chanta, l'on but, l'on mangea alternativement, et tout à la fois, sans désemparer jusqu'à minuit, confondant ainsi tous les repas en un seul. Paulet Fleuriot, son second, était les héros de la fête. Au physique comme au moral, ils étaient les véritables antipodes l'un de l'autre. Le premier était un gros homme, court, râblé, carré. Il avait un cou de taureau, des épaules larges, une face rebondie, et dans ses traits, quelque chose du lion. Son regard était toujours ou terrible ou affectueux. Dans le combat, il était sans pitié. Partout ailleurs, il était humain, compatissant. Au moment d'un abordage, c'était un démon. Au sein de sa famille, près de sa femme et de ses enfants, sauf quelques restes de brusquerie, il avait la douceur d'un ange. Enfin, c'était un bon fermier. Simple, naïf et rond, comme un patriarche, impossible de reconnaître le corsaire une fois embarqué. Oh, il changeait tout à coup de mœurs et de langage. Il devenait rustre et grossier outre mesure. Son commandement était celui d'un despote d'Orient, bref et sans réplique. Il avait un bras et une volonté de fer. Malheur à qui lui résistait. Paulet était intrépide et bonhomme, sensible et brutal. Personne plus que lui n'avait de la franchise et de la loyauté. Le lieutenant de Paulet était l'un des êtres les plus singuliers que j'eusse rencontrés. Doué d'une constitution des plus robustes, très jeune encore, il l'avait usé dans des excès de tout genre. C'était à ces libertins qui, à force de prendre participation des acomptes sur la vie, dévorent leur capital en herbe. Une tête ardente, des passions vives, une imagination exaltée, l'avait de bonne heure poussé en avant. Il ne touchait pas à sa 20e année, et le délabrement de sa poitrine, accompagné d'un dépérissement général, l'avait contraint de quitter l'armée de l'artillerie dans laquelle il était entré à 18 ans. Maintenant, ce pauvre garçon n'avait plus que le souffle. Il était effrayant de maigreur. Deux grands yeux, dont la noirceur faisait ressortir la pâleur mélancolique de son teint, étaient en apparence tout ce qui avait survécu dans ce cadavre où respirait cependant une âme de feu. Fleuriot n'ignorait pas que ses jours étaient comptés. Les oracles de la faculté lui avaient annoncé son arrêt de mort, et la certitude de sa fin prochaine lui avait suggéré une étrange résolution. Voici ce qu'il me contait à ce sujet. « Je serai, me dit-il, dans le 5e d'artillerie légère, où j'étais entré comme enrôlé volontaire. Le régiment tenait garnison à Metz. Les femmes, le manège, les travaux de nuit du polygone m'avaient mis sur les dents. J'étais sec comme un parchemin. Un matin, on sonne le bout de sel. Nous partons. Je tombe malade en route, on me donne un billet d'hôpital, et peu de jours après, les médecins, voyant que je crachais du sang en abondance, décident que mes poumons sont hors d'état de s'accommoder plus longtemps des mouvements du cheval. En conséquence, on décide que je serai envoyé dans l'artillerie à pied. Et à peine suis-je rétabli, que la mutation proposée par les docteurs est effectuée. Je quitte un calibre pour l'autre, le petit pour le gros, le 6 pour le 12, l'éperon pour la guêtre. Oh, j'avais plus à passer le poil d'âne, mais il fallait faire valser la demoiselle sur la plateforme, embarrer, démarrer à la chèvre, rouer la brouette, picorer à l'épaulement, en endosser la bricole, et plus que cela, me coller sur l'échine, la valise de la ramée, cet éternel pot de veau, qui a tué à elle seule plus de consacrés que le canon de Marengo. La peau de veau me donna comme mille coups de bas. Il n'y avait pas moyen d'y résister. Alors je me présente à la réforme, je suis admis. Il ne s'agissait plus que de passer l'inspection du général. C'était ce gueulard de Sarrasin. Il vint à moi. Oh, je parie qu'il est encore poitrinaire, celui-là, n'est-ce pas? Tu es poitrinaire. Phtisique du second degré, répond le major. C'est ça, je m'en doutais. Je disais, ils sont tous épaules rapprochées, poitrine étroite, taille effilée, visage émacié. Voyons ses jambes. Bon, il y a quatre campagnes là-dedans, continua le général, en me frappant sur le mollet. Maintenant, que veux-tu? Ton congé, tu l'auras pas. D'ailleurs, ajouta-t-il, il n'y a de mort que celui qui s'arrête. Allez, va en train. Un autre. Je voulus parler. Un autre, répéta le général. Et tais-toi. L'inspection terminée, j'allais me jeter sur le lit de camp. Et pendant que j'étais étendu sur la plume de 5 pieds, réfléchissant à la dureté du général, il me vint à la pensée que peut-être je le trouverais plus traitable si je lui étais recommandé par un de ses confrères. Mon père avait été lié avec le général Legrand. Ce dernier était au camp d'Amblouse. Je songeais à m'en faire un protecteur. Je le vis, il me reçut comme le fils d'un ancien ami, et me donna une lettre pour Sarrasin, chez qui il se vit accompagné par un de ses aides de camp. La recommandation était pressante. Je me croyais certain du succès. Nous arrivâmes ensemble au camp de gauche. Nous informons de la demeure du général, un soldat nous l'enseigne, et nous voici à la porte d'une baraque délabrée que rien ne signalait comme la résidence du chef. Point de sentinelle, point d'inscription, pas même de hérite. Je heurte avec la monture de mon sabre. « Entrez !» nous crie-t-on avec l'accent et le ton de la mauvaise humeur. Une ficelle que je tire soulève un loquet de bois, et le premier objet qui frappe mes regards en pénétrant dans cet asile, c'est une couverture de laine dans laquelle, couchés côte à côte sur un peu de paille, sont enveloppés le général et son nègre. Et ce fut dans cette situation qu'ils nous donnèrent audience. Sarrasin prit la lettre, et après l'avoir lu sans se déranger, il dit à l'aide de camp « Le général Legrand s'intéresse à ce jeune homme. Eh bien, que désire-t-il? Que je réforme? Il n'y pense pas. » Puis s'adressant à moi, « T'en seras bien plus grand quand je serai réformé. Oh, tu as une belle perspective dans les foyers. Si tu es riche, mourir à petit feu par le supplice des petits soirs. Si tu es pauvre, ajouter à la misère de tes parents et finir dans un hospice. Je suis médecin, moi. C'est un boulet qu'il le faut. La guérison à bout. Si tu ne l'attrapes pas, le sac sera ton affaire. ou bien la marche et l'exercice de Bertrand, c'est encore une chance. Au surplus, fais comme moi, bois au chenil. Cela vaut mieux que des julepes ou du petit lait. En même temps, il étendit le bras, saisit par le cou une énorme dame Jeanne qui était auprès de lui et emplit une carrette qu'il me présenta. J'eus beau m'en défendre, il me fallut avaler une grande partie du liquide qu'elle contenait. L'aide de camp ne put pas non plus se dérober à cette étrange politesse, et le général but après nous. Son nègre, à qui il passa la canette, acheva ce qu'il restait. Il n'y avait plus d'espoir de faire révoquer la décision de laquelle j'allais être frappé. Nous nous retirâmes très mécontents. L'aide de camp regagna Ambleuse, et moi le fort Châtillon, où je rentrais plus mort que vif. Dès ce moment, je fus en proie à cette tristesse apathique qui absorbe toutes les facultés. Alors j'obtins une exemption de service, et nuit et jour, je restai couché sur le ventre, indifférent à tout ce qui se passait autour de moi. Je crois que je serais encore dans cette position si par une nuit d'hiver, les Anglais ne se fussent avisés de vouloir incendier la flotte. Une fatigue inconcevable, quoique je ne fasse rien, m'avait conduit à un péril, pénible sommeil. Et tout d'un coup, je fus réveillé en sursaut par une détonation. Je me lève et à travers les carreaux d'une petite fenêtre, j'aperçois 1000 feux qui se croisaient dans les airs. Ici, ce sont des traînées immenses comme l'arc-en-ciel, ailleurs des étoiles qui semblent bondir en rugissant. L'idée qui me vint d'abord fut celle d'un feu d'artifice. Cependant, un bruit pareil à celui des torrents qui se précipitent en cascade du haut des roches me causa une sorte de frémissement. Par intervalles, les ténèbres faisaient place à cette lumière rougeâtre qui doit être le jour des enfers. La terre était comme embrasée. J'étais déjà agité par la fièvre, et je l'imagine que mon cerveau grossit. On bat la générale, j'entends crier « aux armes !» Et de la plaine des pieds aux cheveux, la terreur me galope. Un véritable délire s'empare de moi. Je saute sur mes bottes, j'essaie de les mettre. Impossible, elles sont trop étroites. Mes jambes sont engagées dans les tiges. Je veux les retirer, je ne puis plus en venir à bout. Durant ces efforts, chaque seconde accroît ma peur. Enfin, tous les camarades sont habillés. Le silence qui règne autour de moi m'avertit que je suis seul, et tandis que de toutes parts on court aux pièces, sans m'inquiéter de la commodité de ma chaussure, je fuis en toute hâte à travers la campagne en portant mes vêtements sous mon bras. Le lendemain, je reparus au milieu de tout un monde que je retrouvais vivant. Honteux d'une poltronnerie dont je m'étonnais moi-même, j'avais fabriqué un conte qui, on eût pu le croire, m'aura fait la réputation d'un intrépide. Malheureusement, on ne donna pas dans le paquet aussi facilement que je l'avais imaginé. Personne ne fut la dupe de mon mensonge. C'était à qui me lançaient des sarcasmes et des brocards. Je crevais dans ma peau de dépit et de rage. Dans toute autre circonstance, me serais battu contre toute la compagnie, mais j'étais dans l'abattement. Ce ne fut que la nuit suivante que je retrouvai un peu d'énergie. Les Anglais avaient recommencé à bombarder la ville. Ils étaient près de terre. Leurs paroles venaient jusqu'à nous. Et les projectiles des 1000 bouches de la côte, lancés de très haut, ne pouvaient plus que les dépasser. On envoya sur la grève des batteries mobiles qui, pour se rapprocher d'eux le plus possible, devaient suivre le flux et le reflux. J'étais premier, serrant d'une pièce d'une douze, et parvenu à la limite des flots, nous arrêtons. Au même instant, on dirige sur nous une grêle de boulets. Des obus éclatent sur nous, sous nos canons, sous nos caissons, d'autres sous le ventre des chevaux. Il est évident que malgré l'obscurité, nous sommes devenus un point de mire des Anglais. Il s'agit de riposter. On ordonne de changer l'encadrement. La manœuvre s'exécute. Le caporal de ma pièce, presque aussi troublé que je l'étais la veille, veut s'assurer si les tourbillons sont passés dans l'encastrement de fer. Il y pose une main, et soudain il jette un cri de terreur que répètent tous les échos du rivage. Ses doigts se sont aplatis sous 20 quintaux de bronze. On s'efforce de le dégager. La masse qui le comprimait ne pèse plus sur eux. Qui se sent encore retenu, il s'évanouit, quelques gouttes de schnapps ne servent à le ranimer, et je m'offre à le ramener au camp. Sans doute, on crut que c'était un prétexte pour m'éloigner. Le caporal et moi, nous cheminions ensemble. Et au moment des rentrées dans le parc que nous devions traverser, une fusée incendiaire tombe entre deux caissons pleins de poudre. Le péril est imminent. Quelques secondes encore, le parc va sauter. En gagnant au large, je puis trouver un abri. Mais je ne sais quel changement s'est opéré en moi. La mort n'a plus rien qui m'effraie. Et plus prompt que l'éclair, je m'élance sur le tube de métal d'où s'échappe le bitume et la roche enflammée. Je veux étouffer le projectile, mais ne pouvant y parvenir, je le saisis, l'emporte au loin et le dépose à terre, dans l'instant même où les grenades qu'il referme éclatent et décorent la table à fracas. Il existait un témoin de cette action. Mes mains, mon visage, mes vêtements brûlés, les flancs déjà charbonnés d'un caisson, tout déposa de mon courage. J'avais été fier sans un souvenir, je n'étais que satisfait. Mes camarades ne m'accablèrent plus de leurs grossières plaisanteries. Alors nous nous remettons en route, et à peine avons-nous fait quelques pas, l'atmosphère est en feu. 7 incendies sont allumés à la fois. Le foyer de cette vive et terrible lumière est sur le port. Les ardoises pétillent à mesure que les toits sont embrasés. On croirait entendre la fusillade. Des détachements, trompés par cet effet, dont ils ignorent la cause, circulent dans tous les sens pour chercher l'ennemi. Plus près de nous, à quelque distance des chantiers de la marine, des tourbillons de fumée et de flammes s'élèvent d'une chaumière dont les ardents débris se disposent perce au gré des vents. Les cris plaintifs viennent jusqu'à nous. C'est la voix d'un enfant. Je frémis. Il est plus tard, peut-être. Je me dévoue. L'enfant est sauvé. Je le remets à sa mère, qui, s'étant écartée un moment, accourait et pleurait pour le secourir. Mon honneur était suffisamment réparé. On eût pu oser me taxer de lâcheté. Je revins à la batterie où je reçus des félicitations de tout le monde. Un chef de bataillon qui nous commanda alla jusqu'à me promettre la croix qu'il n'avait pu obtenir pour lui-même, parce que depuis 30 ans qu'il servait, il avait eu le malheur de trouver toujours derrière le canon et jamais en face. Je me doutais bien que je ne serais pas décoré avant lui, et grâce à ses recommandations, je ne le fus pas non plus. Quoi qu'il en soit, j'étais en train de m'illustrer, toutes les occasions étant pour moi. Il y avait entre la France et l'Angleterre des pourparlers pour la paix. Lord Lauderdale était à Paris en qualité de plénipotentiaire quand le télégraphe annonça le bombardement de Boulogne. C'était le second acte de celui de Copenhague. À cette nouvelle, l'empereur, indigné d'un redoublement d'hostilité sans motif, mande le lord, lui reproche la perfidie de son cabinet et lui enjoint de partir sur le champ. 4 jours après, Lord Ardal descend ici au canon d'or. C'est un Anglais. Le peuple exaspéré veut se venger sur lui. On s'attroupe, on s'ameute, on se presse sur son passage, et quand il paraît, sans respect pour l'uniforme des 2 officiers qui sont sa sauvegarde, de toutes parts on fait pleuvoir sur lui des pierres et de la boue. Pâle, tremblant, défait, le lord s'attend à être sacrifié. Mais le sabre au poing, je me fais jour jusqu'à lui. « Malheur à qui le frapperait » m'écriai-je alors. Je harangue, j'écarte la foule, et nous arrivons sur le port où, sans être exposé à d'autres insultes, il s'embarque sur un bâtiment parlementaire. Il fut bientôt à bord de l'escadre anglaise qui, le soir même, continua de bombarder la ville. La nuit suivante, nous étions encore sur le sable. À 1 heure du matin, les Anglais, après avoir lancé quelques congrèves, suspendent leur feu. Oh, j'étais excédé de fatigue. Je m'étends sur un affût et je m'endors. Oh, j'ignore combien de temps se prolongea mon sommeil, mais quand je m'éveillais, j'étais dans l'eau jusqu'au cou. Tout mon sang était glacé. Mes membres engourdis, ma vue, comme ma mémoire, s'était égarée. Boulogne avait changé de place. Je prenais les feux de la flottille pour ceux de l'ennemi. C'était là le commencement d'une maladie fort longue, pendant laquelle je refusais opiniâtrement d'entrer à l'hôpital. Enfin, l'époque de la convalescence arriva. Mais comme j'étais trop loin et long à me rétablir, on me proposa de nouveau pour la réforme. Et cette fois, je fus congédié malgré moi, car j'étais maintenant de l'avis du général Sarrazin. Je ne voulais plus mourir dans mon lit. Et m'appliquant le sens de ses paroles, « Il n'y a de mort que celui qui s'arrête », pour ne pas m'arrêter, je me jetais dans une carrière où, sans travaux trop pénibles, il y a de l'activité de toute espèce. Persuadé qu'il me restait peu de temps à vivre, je pris la résolution de bien employer. Je me fis corsaire. Que risquais-je? Je ne pouvais qu'être tué, et alors je perdais peu de choses. En attendant, je ne manque de rien, émotion de tous les genres, péril, plaisir, enfin, je n'arrête pas. Le lecteur sait à présent quels hommes étaient le capitaine Paulet et son second. À peine restait-il le souffle à ce dernier, et au combat, comme partout, il était le bout en train. Parfois, semblait-il absorbé dans de nombreuses pensées, il s'en arrachait par une brusque secousse. Sa tête donnait l'impulsion à ses nerfs, et il redevenait d'une turbulence qui ne connaissait pas de bornes. Point d'extravagance, point de saillie singulière dont il ne fut capable. Et dans cette exaltation factice, tout lui était possible. Il eut tenté d'escalader le ciel. Je ne puis dire toutes les folies qu'il fit dans le premier banquet auquel il m'avait présenté. Tantôt, il proposait un divertissement, tantôt un autre. Enfin, le spectacle lui passa par l'esprit. Que donne-t-on aujourd'hui ? Le misanthrope et repentir. Oh, j'aime mieux les deux frères. Camarades, qui de vous veut pleurer ? Le capitaine pleure tous les ans à sa fête. Nous autres garçons, nous n'avons pas de ces joies-là. Ce que c'est quand on est père de famille. Allez-vous quelquefois à la comédie, notre supérieur ? Il faut voir ça, il y aura foule. Tout beau monde, des pêcheuses de crevettes en robe de soie. C'est la noblesse du pays, ô Dieu. Le ciel est poignardé. Des manchettes à des cochons. N'importe, il faut la comédie à ces dames. Encore, si elles entendaient le français. Le français, ah oh ben oui. Oui, allez donc vous faire mordre. Je me souviens du dernier bal des particulières, quand on les invite à danser, qu'ils nous répondent « Je suis reteinte. » Oh, ça. Auras-tu bientôt fini l'économie d'écorner le pays, dit Follet à son lieutenant, qu'aucun des corsaires n'avait interrompu. « Capitaine, reprit celui-ci, j'ai fait ma motion. Personne ne dit mot. Personne ne veut pleurer. Au revoir, je vais pleurer tout seul. » Fleuriot sortit aussitôt. Alors le capitaine commença de nous faire son éloge. « C'est un cerveau brûlé, dit-il. Mais pour la bravoure, il n'a pas son pareil sous la calotte des cieux. » Puis il poursuivit en nous racontant comment il devait à la témérité de Fleuriot la riche capture qu'il venait de faire. Le récit était animé et piquant. Mais les cuirs dont l'assaisonnait Paulet, qui avait une habitude bien bizarre, celle de fausser la liaison en prodiguant le feu de toutes les fois qu'il était avec ses compagnons de bord, et lorsque dans les relations civiles ou dans les jours de fête, il se croyait obligé à plus d'urbanité, ce fut avec force elle qu'il défit la description presque burlesque d'un combat dans lequel, suivant sa coutume, il avait, avec la barre du câble restant, assommé une douzaine d'Anglais. La soirée avançait. Paulet, qui n'avait pas encore vu sa femme et ses enfants, allait se retirer. Lorsque revint Fleuriot, il n'était pas seul. La soirée s'avançait. Paulet, qui n'avait pas encore revu sa femme et ses enfants, allait se retirer lorsque revint Fleuriot. Il n'était pas seul. « Capitaine, dit-il en entrant, Comment trouvez-vous le gentil matelot que je viens d'engager? J'espère que le bonnet rouge n'a jamais coiffé un plus joli visage. C'est vrai, répondit Paulet. Mais est-ce un mousse que tu m'amènes là? Il n'y a pas de barbe. Parbleu, ajouta-t-il en élevant la voix avec surprise. Mais c'est une femme! Puis, continuant avec un étonnement encore plus marqué, « Mais je ne me trompe pas, c'est la Saint. » Oui, reprit Fériot, oui, c'est Elisa, l'aimable moitié du directeur de la troupe qui fit les délices de Boulogne. Elle vient avec nous se réjouir de notre bonheur. Madame, parmi les corsaires, je lui en fais là mon compliment, poursuivit le capitaine, en lançant à la comédienne travestie ce regard de mépris qui n'est que trop expressif. Elle va entendre de belles choses. Faut avoir le diable au corps. Une femme. Allons donc, notre chef, s'écrie Fleuriot. Ne dirait-on pas que des corsaires sont des cannibales? Ils ne la mangeront pas. D'ailleurs, vous savez le refrain. Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme nous. Quel mal y a-t-il à ça? Aucun, la saison est propice pour la course. Tout mon équipage est en parfaite santé. Il n'y a pas besoin ici de madame pour qu'il se porte bien. À ces mots, prononcés avec humeur, Elisa baissa la vue. « Cher enfant, ne rougissez pas, dit Fleuriot, le capitaine plaisante. »« Non, morbleu, je ne plaisante pas. »« Bon, je me souviens de Saint-Napoléon, où tout était major, à commencer par Maréchal Brune, était pied-à-pied. Il n'y a pas de petite guerre en ce jour-là. » Madame sait pourquoi. Allez, ne me forcez pas à en dire davantage. Elisa, que ce langage humiliait, n'était pas loin de se repentir d'avoir accompagné Fleuriot. Et dans le trouble qui l'agitait, elle essaya de justifier son apparition au lion d'argent avec cette douceur de ton, ces manières gracieuses, cette aménité de physionomie, que des mœurs très licencieuses semblent exclure. Elle parla d'admiration, de gloire, de vaillance, d'héroïsme, et afin de prendre Paulet par les sentiments, elle fit un appel à sa galanterie, en le qualifiant de chevalier de français. La flatterie a toujours plus ou moins d'empire sur les âmes. Paulet devint presque poli. Les S lui revinrent à la bouche avec autant de profusion que si c'eût été endimanché. Il s'excusa du mieux qu'il put, obéit, obtint son pardon d'Elisa et prit congé de ses convives en leur recommandant de s'amuser. Sans doute, ils ne s'ennuyèrent pas. Quant à moi, il me fut impossible de rester réveillé. Je gagnai donc mon lit où je ne vis et n'entendis plus rien. Le lendemain, j'étais frais et gaillard. Fleuriot me conduisit chez l'armateur qui, sur ma bonne mine, me fit d'avance de quelques pièces de 5 francs. 7 jours après, 8 d'entre mes camarades était entré à l'hôpital. Le nom de la comédienne Saint avait disparu de l'affiche. On dit qu'afin de se mettre promptement en lieu sûr, elle avait profité de la chaise de poste d'un colonel qui, tourmenté du besoin de jouer jusqu'au plus mal de son régiment, avait fait tout exprès le voyage de Paris. J'attendais avec impatience le moment de nous embarquer. les pièces de 5 francs de M. Choinard étaient comptées. Et si elles me faisaient vivre, elles ne me mettaient guère à même de faire figure d'un autre côté. Et tant que j'étais à terre, j'avais à redouter quelques fâcheuses rencontres. Boulogne était infestée d'un grand nombre de mauvais garnements. Les mansuits, les tribous, les salés tenaient des jeux sur le port, où ils dépouillaient les conscrits sous la direction d'un autre bandit, le nommé Canvenevet, qui, à la façon de l'armée et de ses chefs, osait s'intituler le bourreau des cartes, des crânes. Il me semble encore voir cette légende sur son bonnet de police, où était figurée une tête de mort, des fleurets et des ossements en sautoir. Canivet était comme le fermier, ou plutôt le suzerain du petit paquet de dés, etc. C'était de lui que relevait une foule de maîtres prévus, bâtonnistes, tireurs de savates et autres praticiens, qui le payaient tout pour avoir le droit d'exercer le métier d'escroc. Il les surveillait sans cesse, et quand il les soupçonnait de quelque infidélité, d'ordinaire il les punissait par des coups d'épée. J'imaginais que dans cette île, il était impossible qu'il n'y ait pas quelque échappé des bagnes. Je craignais une reconnaissance, et mes appréhensions étaient d'autant plus fondées que j'avais entendu dire que plusieurs forçats libérés avaient été placés soit dans le camp des sapeurs, soit dans celui des ouvriers militaires de la marine. Depuis quelque temps, on ne parlait que de meurtres, d'assassinats, de vols, et de tous ces crimes présentaient leur caractère auquel on peut reconnaître l'œuvre des scélérats exercés. Peut-être dans le nombre de brigands s'en trouvait-il quelques-uns de ceux avec qui j'avais lié connaissance à Toulon. Il m'importait de les fuir, car, mis de nouveau en contact avec eux, j'aurais eu bien de la peine à éviter d'être compromis. On sait que les voleurs sont comme des filles. Quand on se propose d'échapper à leur société et à leurs vices, tous se liguent pour empêcher la conversion. Tous revendiquent le camarade qui renonce au mal. C'est pour eux une espèce de gloire de le retenir dans l'état abject dont ils ne veulent ni sortir, ni laisser sortir les autres. Je me rappelais mes dénonciateurs de Lyon et les motifs qui les avaient portés à me faire arrêter. Comme l'expérience était récente, je fus disposé tout naturellement à en faire un profit et à me mettre sur mes gardes. En conséquence, je me montrais dans les rues le plus rarement possible. Je passais presque tout mon temps à la basse ville, chez une madame Henri, qui prenait des corsaires en pension et leur faisait crédit sur la perspective de les partie de prise. Madame Henri, dans la supposition où elle aurait été mariée, était une fort jolie veuve, encore très avenante, bien qu'elle approchât de ses 36 ans. Elle avait auprès d'elle des filles charmantes qui, sans cesser d'être sages, avaient la bonté de donner des espérances à tout beau garçon que la fortune favorisait. Quiconque déposait son or dans la maison était le bienvenu. Mais celui qui dépensait le plus était toujours le plus avant dans les bonnes grâces de la mère et de ses filles, aussi longtemps qu'il dépensait. La main de ces demoiselles avait été promise 20 fois, et 20 fois peut-être elles avaient été fiancées. Et leur réputation de vertu n'en avait reçu aucun échec. Elles étaient libres dans leurs paroles, Dans la conduite, elles étaient réservées. Et quoiqu'elles ne se vissent pas blanches de leur innocence, personne ne pouvait se vanter de leur avoir fait faire un faux pas. Cependant, combien de héros de la mer avaient subi l'influence de leurs attraits? Combien de soupirants, trompés par des agaceries sans conséquence, s'étaient flattés d'une prédilection qui avait les conduire au bonheur? Et puis, comment ne pas se méprendre sur la vérité des sentiments de ces chastes personnes, dont l'amabilité constante avait toujours l'air d'une préférence? Le matador d'aujourd'hui était fêté, choyé, on lui prodiguait 1000 petits soins, on lui permettait certaines privautés, un baiser par exemple, pris à la dérobée, on l'encourageait par des œillades, on lui donnait des conseils d'économie, en poussant adroitement à la consommation, on réglait l'emploi de son argent, et si les fonds baissaient, ce qui avait lieu ordinairement à son insu, ce n'était que sur l'offre généreuse d'un prêt qu'il apprenait la pénurie de ses finances. Jamais on ne les conduisait, sans témoigner ni indifférence, ni tiédeur, on attendait que la nécessité et l'amour ne fissent voler à de nouveaux périls. Mais à peine le naïf navire qui emportait l'amant avait mis à la voile et voguait vers les chances heureuses sur lesquelles était hypothéqué un hymen éventuel et une somme légère que l'on avait pris l'engagement de rendre au centuple, que déjà il était remplacé par quelque autre fortune immortelle. Si bien que dans la maison de Madame Henri, les adorateurs faisaient la navette, et que ces deux demoiselles étaient comme deux citadelles qui, toujours investies, toujours prêtes de se rendre en apparence, ne succombaient jamais. Quand l'une levait le siège, l'autre le reprenait. Il y avait de l'illusion pour tout le monde. Et il n'y avait que de l'illusion. Cécile, l'une des filles de Madame Henri, avait pourtant dépassé sa 20e année. Elle était enjouée, rieuse à l'excès, écoutant tout sans rougir. Hortense, sa sœur, était plus jeune et son caractère était plus naïf. Parfois, elle disait des choses, mais il semblait que du miel et de l'eau de fleurs d'oranger coulaient dans les veines de ces deux enfants. Tant en toute occasion, elles étaient douces et calmes. Dans leur cœur, il n'y avait rien d'inflammable. Et quoiqu'elles ne se signassent pas pour un propos leste ou qu'elles ne s'énotassent pas du geste un peu trop familier d'un matelot, elle n'en méritait pas moins, assure-t-on, le surnom qu'on a donné à la bergère de Vaucouleurs, ainsi qu'à une petite ville de Picardie. Ce fut au foyer de cette famille si encommandable que je vins m'asseoir pendant un mois avec une assiduité dont je m'étonnais moi-même, partageant une heure entre le piquet, la gaudriole et la petite bière. Cet état d'une inaction qui me pesait cessa enfin. Paulet voulut reprendre le cours de ses exploits habituels. Nous nous mîmes en chasse, mais les nuits n'étaient plus assez obscures et les jours étaient devenus trop longs. Et toutes nos captures se réduisirent à quelques misérables bateaux de charbon et un sloop de peu de valeur sur lequel nous trouvâmes je ne sais plus quel lord qui, sans l'espoir de recouvrer l'appétit, avait entrepris avec son cuisinier une promenade à maritime. On l'envoya dépenser ses revenus et manger des truites à Verdun. La morte saison approchait, nous n'avions presque pas fait de butin. Le capitaine était taciturne et triste comme un bonnet de nuit. Fleuriot se désespérait. Il jurait, il tempêtait du matin au soir, du soir au matin. Il était dans de véritables accès de rage. Tous les hommes de l'équipage, suivant une expression toute fort usitée parmi les gens du peuple, se mangeaient les sangs. Je crois qu'avec des dispositions semblables, nous aurions attaqué un vaisseau à trois ponts. Il était minuit. Sortis d'une petite anse auprès de Dunkerque, nous nous dirigions vers les côtes d'Angleterre, et tout à coup, la lune, apparaissant à travers une clairière de nuages, répand sa lumière sur les flots du détroit, et à peu de distance, des voiles blanchissent. C'est un brick de guerre qui sillonne la vague luisante. Paulet l'a reconnu. « Mes enfants, nous crie-t-il, il est à nous. Tout le monde à plat ventre et je vous réponds du poste. » En un instant, il nous eut conduits à l'abordage. Les Anglais se défendaient avec fureur. Une lutte terrible s'engagea sur le pont. Fleuriot, qui, selon sa coutume, y était monté le premier, tomba au nombre des morts. Paulet fut blessé, mais il se vengea, et vengea son second. Il assomma tout autour de lui. Jamais je n'avais vu une boucherie pareille. Et en moins de 10 minutes, nous fûmes les maîtres du bord. Et le pavillon aux trois couleurs fut hissé à la place du pavillon rouge. 12 des nôtres avaient succombé dans cette action, où de part et d'autre fut déployé un égal acharnement. Entre ceux qui avaient péri était un nommé Lebel, dont la ressemblance avec moi était si frappante que journellement elle donnait lieu aux plus singulières méprises. Je me rappelais que mon sosie avait des papiers fort en règle. Parbleu, ruminais-je en moi-même, mais l'occasion est belle. On ne sait pas ce qui peut arriver. Lebel va être jeté au poisson. Il n'a pas besoin de passeport. Et le sien m'irait à merveille. L'idée me paraissait excellente. Je ne craignais qu'une chose, c'était que Lebel déposait son portefeuille dans les bureaux de l'armateur. Et je fus au comble de la joie en le palpant sur sa poitrine. Aussitôt, je m'en emparai sans être vu de personne, et quand on eut lancé à la mer les sacs de sable, dans lesquels, pour mieux les retenir à fond, on avait placé les cadavres, on me sentit soulagé d'un grand poids, en songeant que désormais j'étais débarrassé de ce vidoc qui m'avait joué tant de mauvais tours. Cependant, je n'étais pas encore complètement rassuré. Dufali, qui était notre capitaine, d'armes, connaissait mon nom. Cette circonstance me contrariait. Pour n'avoir rien à redouter de lui, je résolus de le déterminer à garder le secret en lui faisant une fausse confidence. Inutile précaution. J'appelle Dufali, je le cherche sur le brick, il n'y était pas. Je vais à bord de la Revanche, je cherche, j'appelle encore, point de réponse. Je descends dans la soute aux poudres, pas de Dufali. Mais qu'est-il devenu? Je monte à la cambuse, et auprès d'un baril de genièvre et de quelques bouteilles, j'aperçois un corps étendu. C'est lui. Je le secoue, je le retourne. Il est noir, il est mort. Telle fut la fin de mon protecteur. Une congestion cérébrale, une apoplexie foudroyante, où une asphyxie causée par l'ivresse avait terminé sa carrière. Et depuis qu'il existait des sergents d'artillerie de marine, n'en citait pas un qui eût bu avec tant de persévérance. Un seul trait le caractérisa. Ce prince des ivrognes le racontait comme le plus beau de sa vie. C'était le jour des rois. Dufali avait attrapé la fève, et pour honorer sa royauté, ses camarades le font asseoir sur une civière portée par 4 canonniers. C'était le pavois sur lequel on l'élevait. Et à chaque brancard pendaient des bidons d'eau-de-vie provenant de la distribution du matin. Juchés sur cette espèce de palanquin improvisé, Dufailly faisait une pause devant chaque baraque du camp où il buvait et faisait boire aux exclamations d'usage. Ces stations furent si souvent réitérées qu'à la fin, la tête lui tourna et que sa majesté éphémère, introduite dans une escouade, avala, presque sans la mâcher, une livre de lard qu'elle prit pour du fromage de gruyère. La substance était indigeste. Dufailly rentrait dans sa baraque, se jette sur son lit, il éprouve des soulèvements de cœur, il veut réprimer ses mouvements expansifs, l'éruption a lieu, la crise passe, il s'endort, il est tiré de sa léthargie profonde que par le grognement d'un chien et les coups de griffe d'un chat qui, postés à proximité du cratère, se disputaient. « Ô dignité de l'homme, qu'es-tu devenu ?» À ce hideux tableau, qui ne reconnaîtra que plus que Dalili, n'était fait par donner des leçons de tempérance aux enfants des Spartiates. Je me suis arrêté un instant pour donner un dernier coup de pinceau à mon pays. Il n'est plus, que Dieu lui fasse la paix. Donc je reviens à bord du brick où Paulet m'avait laissé avec ce capitaine de prise et 5 hommes de l'équipage de la Revanche. À peine avions-nous fermé les écoutilles, pour nous assurer de nos prisonniers, que nous nous rapprochâmes de la côte afin de longer le plus possible jusqu'à Boulogne. Mais quelques coups de canon tirés par les Anglais avant l'abordage avaient appelé dans notre direction une de leurs frégates. Elle fonça de voile pour nous carbonner et bientôt elle fut si près de nous que ses boulets nous dépassèrent. Elle nous suivit alors ainsi jusqu'à la banlieue hauteur de Calais. Alors, la mer devenant houleuse et un vent impétueux chassant au rivage, nous crûmes qu'elle s'éloignerait dans la crainte de se briser sur les récifs. Elle était déjà plus maîtresse de ses manœuvres, poussée vers la terre. Elle eut à lutter à la fois contre tous les éléments déchaînés. S'échouer était pour elle l'unique moyen de salut. Il ne fut pas tenté. Enfin, en un clin d'œil, la frégate fut précipitée sous les eaux croisées des batteries de la corde de fer, de la jetée et du fort rouge, et de partout on laissait pleuvoir sur elle des bombes, des boulets armés et des obus. Au milieu du bruit effroyable de 1000 détonations, un cri de détresse se fait entendre et la frégate s'abîme dans les flots sans qu'il soit possible de lui porter secours. Une heure après, le jour parut. De loin en loin, soulevé par les vagues flottant quelques débris. Un homme et une femme étaient attachés sur un mât. Ils agitaient un mouchoir. Nous allions doubler le cap Grenet lorsque nous aperçûmes leurs signaux. Il me semblait que nous pouvions sauver ces malheureux. J'en fis la proposition au capitaine de prise et sur son refus de mettre la chaloupe à notre disposition, dans l'élan d'une pitié que je n'avais pas encore ressentie, je me laissai emporter à la menace de lui faire sauter la cervelle. « Allons donc, me dit-il avec un sourire dédaigneux et en haussant les épaules. Le capitaine Paulet a plus d'humanité que toi. Il les a vus. Il ne bouge pas. S'il ne bouge pas, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ils sont là-bas, nous sommes ici. avec le gros temps, chacun pour soi. Ils ont fait assez de pertes comme ça, quand il n'y avait que Fleuriot. Cette réponse me rendit d'un bon sang-froid. Il me fit comprendre que nous courions nous-mêmes un danger plus grand que je ne le supposais. En effet, les vagues s'amoncelèrent, et au-dessus se jouaient les goélands et les maures qui, mêlant leurs cris aigus au sifflement de l'aquilon, à l'horizon de plus en plus obscurci, se projetaient de longues bandes, noires et rouges. L'aspect du ciel était affreux. Tout annonçait une tempête. Heureusement, Paulet avait habilement calculé le temps et les distances. Nous marquâmes la passe de Boulogne, mais non loin de là, au portet, nous trouvâmes un refuge et la sécurité du rivage. En débarquant dans cet endroit, nous vîmes couchés sur la grève les deux infortunés que j'aurais si bien voulu secourir. Le reflux les avait apportés sans vie sur la terre étrangère, où nous devions leur donner la sépulture. C'étaient peut-être deux amants. Je fus touché de leur sort, mais d'autres soins m'arrachèrent à mes regrets. Toute la population du village, femmes, enfants, vieillards, était accourue sur la côte. Les familles de 150 pêcheurs se livraient au désespoir à la vue des frêles embarcations que foudroyaient 6 vaisseaux de guerriers anglais, dont les masses solides affrontaient la mer en courroux. Chaque spectateur, avec une anxiété qu'il est plus aisé de concevoir que de décrire, ne suivit des yeux que la barque à laquelle il s'intéressait, et selon qu'elle était submergée ou se trouvait hors de péril, c'était des cris, des pleurs, des lamentations ou des transports d'une joie extravagante. Des femmes, des filles, des mères, des épouses s'arrachaient les cheveux, déchiraient leurs vêtements, se roulant par terre, en vomissant des imprécations et des blasphèmes. Et d'autres, sans croire insister, insultaient à fête de douleur, et se rassongeaient à remercier le ciel, vers lequel, l'instant d'auparavant, elles levaient des mains suppliantes, dansaient, chantaient, et le visage encore inondé de pleurs, manifestaient tous ces symptômes de l'allégresse la plus vive, les vœux les plus fervents, le patronage bienheureux Saint-Nicolas, l'efficacité de son intercession, tout était oublié. Peut-être un jour, plus tard, allait-on s'en souvenir. Peut-être devait-il y avoir un peu de compassion sur le prochain. Mais pendant la tempête, l'égoïsme était là. On me l'avait dit, chacun pour soi.